Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Eh bien, nous sommes assurés que nous allons célébrer dans ce sanctuaire à l'une de ces petites chapelles. Eh bien non. Nous sommes le 1er février. C'est la fin de l'année de la vie consacrée. Alors, tous les gens au Mexique ont été conviés, les congrégations religieuses féminines et masculines ont été conviées à venir terminer cette année exceptionnelle, promulguée par le pape François, de l'année consacrée, le jubilé de la vie consacrée. Alors, on arrive et on voit mais une foule de religieux, religieuses de tous âges, des jeunes, des moins jeunes, d'âge moyen, des congrégations, je vous le dis, multicolores, avec les habits, les particularités, et tout le monde attend en procession pour entrer dans la basilique. La nouvelle, le sanctuaire. Alors on se retrouve dans ce contexte, et là, on s'informe un peu, et on nous dit que nous aurons la permission de concélébrer l'Eucharistie avec le nonce apostolique. Alors c'est une belle nouvelle, c'est une grande nouvelle, au lieu de célébrer privément dans des petites chapelles en haut, à nos hôtels privés, eh bien nous aurons le privilège d'être dans le cœur et de pouvoir célébrer avec les prêtres qui sont là, ils sont quand même assez nombreux, de pouvoir célébrer l'Eucharistie, concélébrer l'Eucharistie, avec le nonce apostolique. Alors c'est la fin de la vie, de l'année de la vie consacrée. Une multitude de religieux, religieuses sont là, en pèlerinage. C'est aussi la porte sainte pour laquelle l'année de la miséricorde a inventé, je dirais, ce rituel que nous pouvons vivre, nous pouvons franchir cette porte et recevoir de la part du Seigneur les flots de miséricorde qui sont dans son cœur. La messe sera présidée par Monseigneur Christophe Pierre, c'est un Français originaire de Saint-Malo. Il est nonce apostolique depuis 9 ans à Mexico et au Mexique. Alors exceptionnellement, nous allons concélébrer à l'autel principal avec les prêtres qui sont présents. Bien sûr, le Père Christian est content. Guillermo sera dans l'assemblée, dans la foule. Ils sont vraiment étonnés parce qu'ils nous le disent. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. En tout cas, ça ne se fait pas souvent. Alors on célèbre la messe, puis rencontre brève avec le nonce qui doit accueillir le pape François dans quelques jours. Alors, nous sommes très près du cadre illustrant l'image de la Vierge. Et on prend le temps de regarder. Ça, c'est vraiment un privilège. Et c'est très impressionnant de voir cette image de la Vierge de Guadeloupe imprimée sur le tilma de Juan Diego. Le nonce va faire une homélie qui clôture la vie consacrée. Et il dira à peu près ceci. Notre vie de consacrée, elle est pour Jésus. Point final. Notre vie n'a de sens qu'en lui. Et non pour ceci, et non pour cela, et non pour faire des choses, et non pour ouvrir tel dispensaire, ou telle école, ou tel hôpital. C'est comme ça qu'il leur parle. Ce n'est pas les choses qui sont importantes. Ce n'est pas votre faire. Ce n'est pas votre savoir-faire qui est important. C'est votre appartenance au Christ. Vous êtes ici pour Jésus, point final. Voilà pour l'homélie du nonce. Alors nous allons prendre le temps, nous allons saluer justement quelques personnes et j'aurai l'occasion de faire une brève entrevue avec le nonce que je vous permets d'entendre. C'est toujours particulier de célébrer de tels événements et parfois on y rencontre des personnes qui nous connaissent. Alors, moi, j'étais dans le chœur avec mon collègue, et il y avait devant moi un prêtre, haïtien, qui se trouvait là. Et tout à coup, au moment où on se donne la paix du Christ, alors il se présente, et mon collègue, le connaît de nom, et il a vécu ici, à Québec, et là, il est nommé à Mexico, donc il était sur place. Évidemment, il me connaissait par Radio Galilée. Mais vous voyez comment c'est petit le monde. Alors comment se fait-il que ce 1er février 2016, lui, moi, mon collègue, on se trouvait là? C'est un grand mystère. Mais c'est comme ça. Alors nous allons quitter le sanctuaire. C'est toujours difficile de sortir d'un lieu comme celui-là. Bon, ensuite, tout de suite après, vous savez, c'était une autre célébration de la messe. Alors il faut quitter. Mais on part le cœur gros un peu parce que on a vécu quelque chose d'important. Et de voir cette image de la Vierge, eh bien, ça nous impressionne. Alors le dîner, il y a tellement de monde, des petits restaurants un peu partout. Alors nous allons faire notre choix. Un choix privilégié, un choix particulier. C'est simple, on se rend au McDonald's. Vous allez sourire, alors c'est le McDo. Parce que premièrement, c'est plus simple, c'est assez rapide, et ça convient. Vous savez, autour du sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe, il n'y a pas de restaurant 3, 4, 5 étoiles, ça n'existe pas. Ce sont des familles qui viennent là, ce sont des gens humbles, modestes. Alors on a des restos, oui, des restos, des McDo, des restaurants simples, de cuisine aussi mexicaine. Et les gens, mangent leur nourriture de cette façon. Alors dîner au McDo, et ce sera l'occasion d'un échange avec le Père Christian, qu'on connaît depuis 24 heures là. À peine 24 heures. Alors le Père Christian est aumônier dans un lycée, dans une école, où se trouvent 600 élèves de 8 à 18 ans. Alors, on échange ensemble, parce que moi, je veux bien savoir ce qu'il fait et comment il fait les choses. Je lui demande de quelle manière tu approches les jeunes. Comment tu approches? Parce que, il est aumônier dans une école, mais comment on approche des jeunes? Alors, lui, son approche est par le sport. C'est par le sport. Donc, ce sont des activités sportives. Et évidemment, il y a d'autres activités pastorales. Mais l'approche humaine, de quelle manière on va rejoindre quelqu'un? De quelle manière un aumônier peut rejoindre un étudiant? Entre 8 et 18 ans. Et moi, je lui raconte mon expérience quand j'étais surtout en paroisse et je lui dis, moi, ce fut par les arts. La musique, le chant, le théâtre. Alors, c'est comme cela que j'ai inventé avec d'autres et certainement avec le Seigneur des fraternités quand j'étais dans les paroisses. Paroisse de Saint-François-Xavier de Duberger, fraternité. Quand je suis allé à Saint-Romuald, fraternité. Saint-Jean-Chrysostome, la même chose. Alors, j'ai toujours fondé des fraternités de jeunes, évidemment, proches de leur monde, proches de leur langage, dédiés certainement à la prière, mais il fallait faire autre chose, il fallait trouver le moyen d'articuler, je dirais, notre foi, puisque une fraternité, on vit ensemble, on échange, on partage, mais en même temps, on a besoin de donner. Moi, je trouvais très, très important cette dimension de la mission, la dimension de donner, de se donner dans la mission. Alors, j'ai inventé comme cela ce qu'on appelle les nuits la plus longue. C'était toujours le jeudi soir, le jeudi saint. Alors, à compter de 10 heures, les jeunes venaient à l'église et c'était toute la nuit. Alors, il y avait une partie où nous présentions un grand spectacle. Alors, spectacle veut dire musique, veut dire chorégraphie. Dans le langage des jeunes, veut dire également expression théâtrale. J'écrivais ces textes. Et pendant des mois, on montait ces expériences. Et c'était des expériences qui façonnaient intérieurement les jeunes. Les jeunes s'évangélisent à travers ce qu'ils sont et à travers ce qu'ils font. Mais il faut leur donner du pain. Il faut leur donner de la farine. Il faut leur donner de l'eau. Il faut leur donner les matériaux pour qu'ils pétrissent le pain. Le pain qu'ils vont donner, qu'ils vont partager à ceux et celles qui viendront pour ces événements, par exemple, comme je vous le dis, la nuit la plus longue. Alors, j'en ai vécu plusieurs, vous savez, du côté de Saint-François-Xavier de Duberger, c'est là qu'elles ont commencé, et ensuite sur la rive sud, mais les jeunes venaient de partout. Ça venait de partout. Je me rappelle avoir entendu des témoignages. Les parents disaient, mais écoutez, ils appelaient au presbytère et disaient, écoutez, il y a un prêtre chez vous, là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il fait une activité à 11 heures du soir et que ça va durer toute la nuit? Ma fille ou mon fils veut se rendre à cet événement. Alors les gens répondaient, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors ça rassemblait là. 600-700 personnes. À Saint-Romuald, l'église était bondée. C'est 800 jeunes, 800 personnes. Et évidemment, le cœur de l'événement était toujours la présentation qu'on faisait. Il y avait toujours une thématique, vous savez. Alors, une présentation où les jeunes donnaient ce récital. Moi, je chantais. Les jeunes aussi chantaient. Nous avions de la musique. En tout cas, c'était quelque chose, à mon avis, de très adapté, de très concret aussi, à travers tout ce que les jeunes vivaient, les problèmes qu'ils vivent, les espérances qu'ils portent. Il y avait toujours aussi une démarche intérieure que je leur faisais faire à travers cette prière aussi que j'animais, les jeunes se mettaient en route. Et quand on se met en route le cœur participe. Alors il y avait des grandes manifestations comme celle-là, d'année en année, qui regroupaient les jeunes et qui les évangélisaient. Et vers 2-3 heures du matin, la plupart rentraient chez eux. D'autres restaient dans l'église, et là, il y avait des prêtres qui confessaient. Nous donnions le sacrement du pardon. C'était vraiment très simple, très beau. C'était la vie. Et au petit matin, tout le monde était content de se retrouver. Et là, on avait un déjeuner ensemble, et on repartait chacun chez soi. Et plusieurs s'en allaient sur l'oreiller, évidemment, pour se reposer. Mais je vous parle de ces expériences pour vous dire qu'il y a toutes sortes de chemins. Et quand on est dans une école, comme le Père Christian, eh bien les jeunes sont là le jour. Ils ont des activités, évidemment. Mais lui, il a privilégié le chemin du sport pour pouvoir être proche des jeunes. Avoir une forme d'humanité. Une humanité. Le prêtre est un être humain. Alors, et les gens vers lesquels le Seigneur nous envoie, ce sont nos frères, quand il dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Alors, ce sont les êtres humains comme nous que nous devons rencontrer, que nous devons interpeller. Alors, il faut, d'une part, entrer dans la même barque. Et c'est la barque de Jésus. Et Jésus s'est fait homme. Il est vraiment Dieu, vraiment homme. Mais c'est dans sa barque qu'il nous faut entrer. Que moi, comme prêtre, je dois entrer et faire entrer les jeunes. Donc, nous sommes dans une seule barque et chacun a sa place. Et c'était cela qui était extraordinaire dans ces événements de la nuit la plus longue. Vous savez, tout le monde n'a pas le même talent. Il y avait une 60aine de jeunes, par exemple, 50, 60 jeunes, des garçons et des filles, des adolescents, des adolescentes. Il y en a qui sont doués pour telle chose, d'autres pour autre chose. Il y en a qui ont peu de choses. Alors j'essayais de trouver pour chacun une place. Une place. Et chacun avait sa place. Vous pouvez me croire. Voilà. Ce sont des belles expériences. Donc, au McDo, on a parlé de cela. Alors, peut-être que le père Christian s'est allumé chez lui quelque chose en se disant, bon, peut-être aussi, oui, il y a d'autres chemins que le football. Il y a peut-être d'autres chemins que le hockey. Il n'y en a pas beaucoup au Mexique, mais il y en a ici. Il y a peut-être d'autres chemins que le sport. Il y a le chemin des arts, il y a le chemin de la musique, il y a le chemin du théâtre, de l'expression, de la chorégraphie. Alors, c'est tout un monde dans lequel les jeunes baignent et sont contents de s'exprimer. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. Il avait tout entendu, petit Jean, replié dans sa défaite. Il trouva heureux tout ce que sa rivale venait de dire en partageant ainsi avec tous sa victoire. Lui, il n'aurait pas agi ainsi. Aux mains fermées de tout ce village devant lui, il y a longtemps qu'il aurait arraché le pouvoir de franchir l'impossible. Monsieur le maire s'était cru obligé de reprendre la parole et de commenter les décisions de la jeune reine. Puis, avant de quitter son estrade et de congédier tout son monde, il crut bon de remercier devant tous l'initiateur de cette compétition qui s'était changée en une véritable fête. La foule se mit à scander. « Vive Petit Jean ! Vive Petit Jean !» Monsieur le maire l'invita à monter sur l'estrade. Un éclair traversa l'esprit de Petit Jean. Il était défait. Mais tout le village n'était-il pas là devant lui ? Ce que la dame de la montagne lui avait demandé, n'était-ce pas seulement de leur dire son désir de gravir l'impossible ? Il était à deux pas de sa vraie victoire. Avec son arc et ses flèches, il monta sur l'estrade. Devant tout le village réuni, il brisa sur son genou son arc, répétant le geste de la dame de la montagne. Un murmure courut dans la foule, puis ce fut le silence. Petit Jean se mit à parler. Il était calme.
« J'aurais aimé être votre roi, mais je ne suis pas déçu, puisque nous avons une reine. »
La foule se détendit en entendant ces paroles toutes simples. Puis il poursuivit lentement. Son regard était lumineux, presque fascinant.
« J'avais un rêve, et je le tiens toujours dans mes mains. Je croyais qu'il fallait cette couronne pour le réaliser, mais non !» Ma victoire, c'est de vous parler à tous. »
Les gens s'étaient mis à se regarder les uns les autres, étonnés des propos mystérieux que leur tenait Petit Jean. Le moment était venu.
Vous aimeriez savoir la folie que j'aurais aimé réaliser si j'avais eu la royauté ?
La foule demeurait immobile, attentive. Il reprit en souriant.
Qui aimerait savoir mon rêve et mon secret ? Qui ?
Découvrant peu à peu que toute cette idée de Petit Jean n'était peut-être pas aussi simple et inoffensive qu'il n'y paraissait au premier abord, les gens lui signifièrent leur intérêt.
« Je vais vous le dire, mais avant, vous allez tous vous mettre les mains derrière le dos. »
D'abord hésitante, la foule se rendit tranquillement à la demande de Petit Jean. Certains n'osant briser l'effet de mystère, d'autres sentant une certaine magie dans les paroles de Petit Jean. La reine fit de même, de plus en plus intriguée par le mystérieux scénario. C'est alors que lentement, il se mit à leur parler fort et distinctement.
« Si j'avais été roi, j'aurais fait mon trône sur le sommet de l'impossible !»
Ces paroles
firent l'effet d'une bombe. Tous voulurent spontanément lever la main pour accomplir instinctivement le rabattement de tête, mais les mains derrière le dos, ils s'étaient sentis prisonniers. Petit Jean était sur l'estrade. Ils commencèrent donc à huer et à crier leur rage et leur mécontentement, car ils avaient très bien saisi le sens des paroles de Petit Jean. Indignés d'être tombés dans un piège, ils lancèrent des jurons. Certains osèrent même s'avancer pour le saisir et le faire descendre de cette estrade où il semblait encore les dominer. Mais la jeune reine, sentant le danger qui le menaçait, se leva et alla se placer devant Petit Jean. Levant la main, elle dit avec son plus beau sourire qu'il ne fallait pas davantage gâter la fête et que la semaine serait longue pour jouir des privilèges qu'elle leur accordait. Le petit village se dispersa avec un arrière-goût dans le cœur. Ici et là, des mains rabattaient durement la tête des enfants qui osaient jeter les yeux vers l'impossible. Resté seul avec la reine devant lui, Petit Jean se pencha pour saisir son arc brisé. Et lui donnant, il dit « Voilà, c'est toi ma victoire. » Puis il partit. Ce soir-là, la colère était dans la maison de Petit Jean. Son père et sa mère avaient été témoins de cette scène de folie, et les gens n'avaient pas manqué de la leur remontrer. Son père se mit à jurer contre cette maudite montagne vers qui tous les yeux du village, sans exception, s'étaient un jour braqués tôt ou tard. Petit Jean ne l'écoutait pas. Il cherchait de plus en plus à comprendre l'énigme qui le harcelait. Comment expliquer la sortie en si peu de jours d'autant d'archers dans ce même petit village ? D'où venait cet intérêt doublé d'une étrange habileté à tirer à l'arc ? La colère du père ne s'était pas calmée, au grand déplaisir de sa mère, qui se tenait coite. Petit Jean regardait soudainement sa main droite, et la cicatrice du miroir lui rappela son grand combat. Regardant son père, il lui dit lentement « Papa, tu me ressembles ? Et l'impossible, toi aussi un jour tu l'as regardé ?» Ces mots désamorcèrent la colère du père, qui se tut. Petit Jean s'était levé et du seuil de la porte, paisiblement lui dit « Papa, je te ressemble. » Elle était belle à regarder maintenant, l'impossible. La peur et le courage s'étaient battus au-dedans de lui, mais il avait triomphé, Petit Jean, avec cette force qui l'avait mené jusqu'au bout. Très tôt ce matin-là, il arriva à la petite chaumière sur la montagne pointue. Les poules attendaient encore l'eau et les grains, et Petit Jean avait pris à nouveau l'initiative de les nourrir et de les abreuver. Il se sentait si heureux, si léger, et il brûlait d'impatience de le crier à la dame de la montagne. Cette dernière restait dans sa chambre, ce qui n'était pourtant pas son habitude à cette heure. Entré dans la chaumière, le regard tourné vers la porte de la chambre, il attendait. Mais une autre porte s'ouvrit, celle de l'extérieur, par laquelle, à la grande surprise de Petit Jean, il entra. Il lui demanda « Mais où donc étais-tu ? » « Dehors ? Mais j'en arrive et je ne t'ai pas vu. » « C'est grand dehors, Petit Jean. » Avec une flamme dans les yeux, il lui dit « J'ai réussi !» L'émotion gagna pour la première fois le visage de la dame de la montagne. Et le regardant avec gravité, elle lui dit « Tu es presque beau. » Alors il se mit à lui raconter comment il s'y était pris pour annoncer son rêve à tout le village. Le récit de Petit Jean s'accompagnait de mille et un gestes, et le suivant avec attention, elle riait et le félicitait en même temps du courage qu'il avait eu. Lui ne cessait de répéter « J'ai réussi ! J'ai réussi !» Sur le seuil de la porte où Petit Jean s'était assis, le soleil tombait droit sur lui. Il se sentait bien les yeux fermés, écoutant le chant des oiseaux et plus loin celui des poules. Un vent léger soufflait sur les hauteurs des arbres. Derrière lui, la dame de la montagne balayait le plancher de la chaumière. Il lui dit tout bonnement « J'ai toujours quelqu'un en tête.
S'arrêtant de faire bouger son balai de branches, elle répondit avec humour
« On appelle cela une obsession. »
Petit Jean gardait le silence sous le soleil qui chauffait son visage. Puis, en continuant de balayer, elle lui demanda
« Cela te fait souffrir d'y penser ?»«
Non. » »«
Et
oui. » »«
Alors, c'est peut-être autre chose qu'une obsession. » »«
C'est quoi ?»«
Une obsession ne te laisserait pas ainsi paresseusement assis sur le seuil de la porte. Une obsession, c'est comme un dard. »
Alors c'est quoi?
C'est peut-être quelqu'un qui veut entrer chez toi, puisqu'il frappe sans cesse à la porte de tes pensées.
Il ouvrit lentement les yeux. Le soleil l'éblouissait. Puis, se tournant vers elle,
« Cela t'est déjà arrivé ?»«
Oui. »«
Plusieurs fois ?»
C'est mon secret. »
Il se mit à réfléchir à ces paroles, qui amenaient des lumières sur ce qui se passait en lui. Puis doucement,
« C'est quoi l'amour ?»«
C'est une flèche qui atteint le centre de la cible sans que tu ne l'aies tirée toi-même. » »«
Je crois que c'est ce qui m'arrive. »
Petit Jean se leva et sortit. Il regarda l'impossible, puis jeta les yeux sur son village en bas. La petite flèche du clocher de l'église Sant'Antonio brillait. Là, il s'assit dans l'herbe et continua de fixer au loin son village. La dame de la montagne vint s'asseoir près de lui.
« Tu changes de direction, Petit Jean. »«
Moi ? De direction ?»
« Depuis que tu viens à la montagne pointue, c'est la première fois que tu t'installes ainsi en direction de ton village, et non pas vers l'impossible. »«
Je regarde tout simplement. »«
Tu regardes qui ?»«
Personne, tout le monde. »
Embarrassé, Petit Jean se retrouvait entre son village et l'impossible. Pourquoi, soudainement, s'était-il tourné vers son village en bas? Il eut peur de le savoir. C'est vrai, il regardait quelqu'un. Cette personne qui frappait à la porte de ses pensées. La reine.
Il se mit à sourire doucement et dit
« C'est fort, l'amour ?»«
Plus fort que toi et moi.
Il peut t'emporter comme la rivière folle au printemps. »
« Ça blesse, l'amour ?»«
Ça peut tuer, mon garçon. »«
On peut en mourir ?»«
Comme on peut en vivre. »«
Mais s'il nous emporte comme la rivière déchaînée ?»«
Tu fais comme ceux qui s'aventurent dans les rivières et les fleuves sauvages. »« La passion les pousse vers l'inconnu. »« Mais ils prévoient tout ce qu'ils peuvent. »«
Ils étudient les cartes. » La force de l'eau, des vents et des courants, le danger des rapides, les portages nécessaires et la patience des saisons qu'il ne faut pas brusquer.